Vous avez reconnu notre générique, il s'agit d'un extrait de Roméo et Juliette de Prokofiev avec Andriy Gavrilov au piano. C'est bien sûr le générique de Vendredi Théâtre. Vendredi Théâtre, l'émission qui traite de l'actualité théâtrale, et je suis avec les chroniqueurs de Vendredi Théâtre. Je suis avec l'inénarrable Tito. Bonjour Tito.
Bonjour.
Je suis avec le fringant Christopher.
Bonjour.
Et avec un revenant, Robin. Bonjour.
Bonjour.
Et nous avons le plaisir, le bonheur et l'avantage aujourd'hui de recevoir Jean Varela. Bonjour.
Bonjour.
Pour nous parler de la programmation de Sortie Ouest à Béziers. Alors la programmation, elle est énorme, on ne pourra pas parler de tout, j'ai fait une petite sélection. Et on va commencer tout de suite par les chapiteaux du livre. C'est une manifestation qui a lieu du 25 au 29 septembre. Alors ces chapiteaux du livre, qu'est-ce que c'est ?
C'est un événement que nous avons créé il y a 6 ans maintenant, donc un an après la création de Sortie Ouest. Puisque sur le domaine de Baïssan est installée direction de la direction du livre départemental. Et il m'a semblé intéressant dès le début d'associer la démarche du théâtre, du domaine d'art et de culture de Baïssan à cette direction. Et nous avons créé ensemble ces chapiteaux du livre qui rassemblent pendant un gros week-end maintenant, puisque ça commence je crois dès le mercredi, des ateliers autour des métiers du livre, reliure, papier marbré, lithographie, destination du public scolaire mais du public très large, des conférences, c'est devenu la grande marque de ces rendez-vous, des grandes conférences. Cette année, il y aura une rencontre ETEX-carrière, il y aura une conférence avec Boris Cyrulnik, avec Philippe Mérieux, Yves Coppens, et puis tout au long de la journée, des rencontres avec les auteurs, puisqu'il y a également un grand marché du livre, avec 48 éditeurs présents sur le week-end, venus de toute la région Languedoc-Roussillon, qui présentent leurs nouvelles éditions, en présence de leurs auteurs qui font des signatures, des tables rondes, des rencontres. Voilà, c'est une grande fête du livre. Il nous semblait important, sur Béziers, qui n'avait qu'une librairie jusqu'à maintenant, une seconde vient d'ouvrir, de défendre avec le département la filière livre. Puisque, comme l'avait dit Frédéric Mistral en son temps, à Béziers, les pâtissiers s'engraissent et les libraires meurent de faim.
Quelle horreur. J'ai rien contre les pâtissiers, ceci dit.
Moi non plus, certes.
Mais j'ai vu aussi dans la programmation une chose, il y a un hommage au mouvement oulipien.
Oui, alors l'an dernier nous avions accueilli tout un groupe de poètes oulipiens qui avaient donné un moment réjouissant de lecture, de rencontre avec le public, et nous les avons à nouveau invités pour remettre cette belle rencontre, écouter leurs textes, écouter leurs jeux de mots, écouter leur spirituel humour.
On va rappeler que Oulipo, c'est un mouvement qui avait été fondé par Raymond Queneau, si je ne me trompe
Exactement.
Pas. Et ça veut dire ouvroir de littérature potentielle. Il y a eu des ouvrages merveilleux dans le mouvement oulipien. Il y a eu Pérec aussi qui a participé au mouvement. Et c'était en fait pour ouvrir des perspectives nouvelles à la littérature en se servant de disciplines qui n'étaient pas forcément liées à la littérature. Je pense entre autres aux 1000 milliards de poèmes de Raymond Queneau, qui est un recueil de poèmes, où il y a 1000 milliards de poèmes et c'est basé sur une formule mathématique. Je pense aussi à La disparition de Georges Perec, où il a écrit donc un roman sans une seule lettre E. Donc voilà, tout un beau programme autour du livre, moi qui me satisfait pleinement, puisque tout le monde le sait, je suis un collectionneur acharné de livres, je suis submergé à la maison par les livres, et donc à chaque fois qu'il peut y avoir une manifestation pour promouvoir le livre et pour sortir un petit peu des écrans d'ordinateur et pour se plonger dans ces pages imprimées, même si maintenant les livres ne sont plus faits ou presque plus faits en typographie.
Alors venez, parce que dans les éditeurs, parmi les éditeurs installés en région, on trouve des merveilles, des livres-objets formidables, des petites maisons d'édition qui continuent à éditer en typographie, avec de la lithographie, avec de l'estampe. On trouve des objets merveilleux. Je me souviens avoir vu de très beaux herbiers. Donc il y a véritablement le livre qu'on peut qualifier d'industriel présent, et puis des maisons qui travaillent ces objets qu'on a plaisir à découvrir quant à leur contenu et à leur contenant. Voilà, c'est l'objet livre qui est magnifique.
Mais c'est vrai qu'un livre, c'est beau non seulement par ce qu'il y a dedans, mais aussi pour l'objet. Et c'est, moi, je collectionne vraiment les beaux objets, Tito le sait.
Ouais, moi, j'ai failli craquer, mais je n'avais pas l'argent pour ça. Une reliure en granit poli. ça fait quelque chose de magnifique, vraiment une boîte en granit très fine où on glissait le livre à l'intérieur. Ça, ça m'a donné envie, mais...
Oh, c'est on trouvera une petite place à la maison. Donc cette manifestation, donc, les chapiteaux du livre, c'est du 25 au 29 septembre.
Oui,
donc,
à l'entrée libre.
Entrée libre.
Tout est entrée libre, c'est important.
Oui, c'est important de signaler. Ouais.
On va parler maintenant du Grand Tour. On en parle régulièrement du Grand Tour, mais qu'est-ce que c'est que ce Grand Tour à Béziers?
Le Grand Tour, c'est la volonté de ne pas seulement programmer sur le domaine de Baïssan, mais de concevoir Sortie Ouest comme un outil de la décentralisation dans la décentralisation, c'est-à-dire aller au plus profond du territoire, aller à la rencontre des publics en faisant circuler les œuvres et le public, puisque une partie du public qu'on rencontre à Bédarieux, à Saint-Gervais-sur-Mare, à Olonzac, on le retrouve ensuite à Sortie Ouest. Et une partie du public plus urbain qui vient à Sortie Ouest a plaisir maintenant, au bout de 6 ans, à aller dans ses communes voir tel ou tel spectacle. Ça a créé une véritable dynamique territoriale. C'est aussi une aide à l'emploi, puisque lorsque une compagnie est programmée dans le Grand Tour, en accord avec les communautés de communes ou les associations qui participent à l'organisation de ce Grand Tour, les compagnies jouent entre 5 et 10 fois. Donc les artistes arrivent à jouer sur un temps restreint leur spectacle une dizaine de fois, ce qui aujourd'hui est important.
En fait, c'est le théâtre qui va à la rencontre du public dans des lieux où il n'y a pas forcément de représentation théâtrale.
Alors, où il n'y avait pas, mais aujourd'hui, toutes ces communautés de communes, tous ces territoires ruraux, où beaucoup d'entre eux ont mis en place des politiques culturelles. Il y a des conventions qui lient ces communautés au département de l'Hérault. Du coup, ces communautés se sont professionnalisées, ont embauché un animateur culturel et elles ont, pour la plupart d'entre elles, une véritable saison de spectacles vivants. Et ces saisons sont renforcées par la venue du Grand Tour.
Il y a combien de communes qui sont affiliées à peu près à ce
Grand Tour ? On tourne dans une vingtaine de communes pour environ 60 représentations dans la saison. Sur le Grand Tour. Alors il y a des petites formes qui peuvent aller en médiathèque, et ça nous l'organisons avec la médiathèque départementale. C'est le cas de Coco qui va chanter les chants de 1914. C'est le cas de Joyeux Bordel, le spectacle de Sandrine Clémenceau. Donc ce sont des formes relativement légères qui vont dans les médiathèques. Il faut savoir que dans ces communes rurales, la médiathèque est souvent le seul lieu culturel permanent. Mmh. Et c'est un véritable relais dans la vie de la commune. Et puis, il y a des formes plus importantes qui, elles, sont installées par l'équipe technique de Sortie Ouest dans des salles polyvalentes aménagées. On essaie toujours que la représentation se donne dans de très bonnes conditions et pour les artistes et pour le public.
Et donc, il y a du public qui peut assister à ces représentations dans les communes et que vous retrouvez éventuellement aussi à Sortie Ouest.
Ah oui, c'est...
Ça donne envie d'aller à Sortie Ouest.
Exactement. Et ça donne envie au public de Sortie Ouest, maintenant, d'aller dans ces communes-là. Souvent, des spectateurs de Béziers ou de Narbonne me disent « Ah, ce spectacle, on va aller le voir à tel ou tel endroit. » Et ça, ça crée une véritable circulation sur le territoire. Et en plus, ce n'est pas une programmation de seconde zone. Mmh. C'est vraiment des objets que nous défendons, comme l'apprentissage femme, qui est vraiment un très beau travail avec la comédienne Nathalie Bécu, qui nous plonge dans l'Angleterre médiévale. Nathalie fait un très beau travail d'actrice. Ou de 3 grammes, le texte de Bernard Falconet avec Lynn Wimbley, qui est une introspection de la famille magnifiquement interprétée. Donc ce sont des objets qu'on peut voir sur les grands théâtres et qu'on peut voir également à Sortie Ouest.
Avant de faire une petite pause musicale, 2014, ça va être la commémoration de la Grande Guerre. Et il y aura plusieurs spectacles en rapport avec la Grande Guerre. Et moi, j'ai choisi de faire une programmation musicale qui parle de la guerre 14. La guerre 14, cette grande boucherie qui a fait au moins 20 millions de morts pour pas grand-chose. Et on va commencer tout de suite avec Georges Brassens, la guerre de 14-18.
Depuis que l'homme écrit l'histoire, depuis qu'il bataille à cœur joie, entre mille et une guerres notoires, si j'étais tenu de faire un choix, à l'encontre du vieil Homère, je déclarerai tout de suite, moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Est-ce à dire que je méprise les nobles guerres de jadis, que je me soucie comme d'une cerise de celle de 70? Au contraire, je la révère et lui donne un satisfait. Même en colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Même en colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Je sais que les guerriers de Sparte plantaient pas leurs épées dans l'eau, que les grognards de Bonaparte tiraient pas leur poudre aux moineaux. Leurs faits d'armes sont légendaires, au garde à vous je les félicite. Même en colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Même en colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Bien sûr, celle de l'an 40 ne m'a pas tout à fait déçu. Elle fut longue et massacrante, et je ne crache pas dessus. Mais à mon sens, elle ne vaut guère, guère plus qu'un premier accessite. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mon but n'est pas de chercher noise aux guérillas, non fichtre non. Guerre sainte, guerre sournoise, qui n'ose pas dire leur nom. Chacune a quelque chose pour plaire, chacune a son petit mérite. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Du fond de son sac à malice, Mars va sans doute à l'occasion en sortir une vraie délice qui me fera grosse impression. En attendant, je persévère à dire que ma guerre favorite, celle mon colon que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18. Celle mon colon que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18.
Et oui, la guerre de 14-18 sur Divergence FM. Je vous rappelle que vous êtes sur l'émission Vendredi Théâtre, l'émission qui parle de l'actualité théâtrale, et que nous recevons Jean Varela pour nous parler de la saison 2013-2014 à Sortie Ouest. On parlait de la guerre 14, on va parler maintenant d'un texte, Tambour dans la nuit, texte de Bertolt Brecht mis en scène par Dag Jadret. Si je ne me trompe pas, c'est un texte que Brecht a écrit juste après la guerre 14-18.
Oui, il l'a écrit dans la foulée de la révolution spartakiste qui a eu lieu en 1919, dans la foulée de cette grande guerre. Et il s'est mis à écrire cette pièce quelques jours après l'anéantissement de ce mouvement révolutionnaire par la social-démocratie allemande. Mmh. Et c'est une pièce de jeunesse qui est très peu montée, que Dag Jadret a souhaité mettre en scène. C'est une production de la compagnie In Situ qui est associée à Sortie Ouest.
C'est une création.
Et en plus, c'est une nouvelle traduction qui a été commandée à René Zand et qui va être publiée au moment de la création, un peu avant, à l'Arche Éditeur.
Ah oui.
Puisque depuis très longtemps, cette pièce n'avait pas été retraduite. Et il me semble d'ailleurs que la traduction de René Zand donne une très belle dynamique à cette pièce qui est considérée comme complexe, alors que dès qu'on la voit au plateau, Dag Jadret avait fait un travail avec les étudiants de l'École supérieure d'art dramatique à Montpellier, où j'avais vu le rendu. Et alors que la pièce paraît à la lecture relativement complexe, dès qu'elle est portée au plateau, on est embarqué dans une véritable fable, une véritable histoire familiale sur fond de révolution. On entend la mitraille, la révolution gronder dans les faubourgs de la ville. Et Dag a réuni une très belle distribution pour cette production qui, je crois, sera une des grosses productions en région cette année, puisqu'il y a une dizaine d'acteurs au plateau.
Ah oui.
Des acteurs fidèles à son travail, comme Stéphanie Marc, Philippe Autier, qu'on avait vu ensemble dans Occident, de Rémy DeVos, Gérard Bail, et puis de nouveaux acteurs, des jeunes gens qui viennent du Jeune Théâtre National, des jeunes gens qui viennent de l'école de Montpellier, et des acteurs confirmés. Je crois que l'ensemble de sa distribution va être très forte, et en tout cas, va donner à voir de très belles singularités d'acteurs.
Moi, je suis très curieux de découvrir cette nouvelle traduction, parce que moi, j'avais lu le texte il y a quelques années, et c'est un texte de jeunesse, et on oublie souvent les textes de jeunesse comme Bâle
oui.
de Brecht, et moi, j'avais trouvé que c'était une langue flamboyante. Je l'avais lu en traduction, donc je suis très curieux de découvrir cette nouvelle traduction.
Oui, c'est à la fois une langue très poétique, flamboyante, et puis très concrète. puisqu'on est dans une épopée révolutionnaire, on est dans une épopée familiale aussi, avec ce revenant qui arrive et que personne n'attend plus. Les gens ont reconstruit ou sont en train de reconstruire leur vie de famille différemment. Et donc il y a ce croisement entre la langue flamboyante, comme vous le dites, poétique, et puis une langue du quotidien. Et ça, c'est, je crois, l'enjeu un des enjeux de cette création.
Alors, Le Tambour dans la nuit, ça sera du 9 au 15 novembre, donc à Sortie Ouest, au théâtre Sortie Ouest.
En création. Et d'ailleurs, vous parlez de la guerre de 14-18. C'est un texte qu'il faut totalement placer dans cette dynamique-là, dans cette commémoration de ces guerres civiles européennes. On commencera d'ailleurs, je l'avais dit, pour le Printemps des comédiens, avec le Cyrano de Bergerac, puisque Cyrano a été écrit en 1896 ou 17, alors que la France est encore sous le choc de la défaite de 1870, et la figure de Cyrano va redonner un élan à l'esprit français. Donc cette pièce se situe là, et elle a été reçue lors de sa création comme telle, comme un événement de la force nationale, enfin, avec cette figure à la fois amoureuse, à la fois forte au combat qu'est Cyrano, et poétique, aimant aussi la vie avec son ami Raguenaud. Il y aura Tambour dans la nuit, donc écrit en 1919, et il y aura un spectacle d'une compagnie dont on parle beaucoup actuellement, qui est Hôtel Moderne, qui viendra donner la Grande Guerre. On en parle beaucoup puisqu'il joue au 104 un spectacle sur Auschwitz qui s'appelle Camp, avec des marionnettes miniatures, comme le cas pour la Grande Guerre.
Il y a juste une chose par rapport à 1919, il faut penser qu'on parle souvent de la guerre du côté des soldats, ce qui est normal puisqu'ils ont été des millions à mourir. Mais en 1919, tout était désorganisé en Europe. Il y a eu des attaques d'épiceries, les gens avaient faim, il n'y avait pas de pain, parce que tout était désorganisé, il n'y avait pas de bateaux, ils avaient été coulés par les U-boats, etc. Et donc c'était une grande pagaille, et les civils souffraient énormément en 1919. Donc c'était une Europe qui souffrait énormément.
Et ça m'intéressait de commémorer...
Plus près du micro, s'il vous plaît.
Ça m'intéressait de commémorer 1914, l'année aussi des élections européennes, et de re-questionner la construction européenne par cette interrogation historique, pour savoir, au-delà des difficultés actuelles, tous les bienfaits de la construction européenne au niveau de la paix, de la prospérité. Je trouve qu'on l'oublie souvent. Et là, il y a un questionnement à un moment où il y a un risque de voir les idées populistes arriver très largement en tête lors de ces élections de juin 14.
Je sais bien que ces parallèles sont toujours un peu hasardeux, mais la Société des Nations a été faite sur la base d'une bonne intention. Mais après, c'est son organisation interne qui était une catastrophe. C'est sa constitution, le fait d'avoir mis les colonies anglaises qui votaient pour l'Angleterre et des choses comme ça. Je crois qu'il y a un parallèle qu'on peut faire avec l'Europe, qui était une très belle idée, qui a été faite avec beaucoup d'amour par beaucoup d'Européens. Et je pense surtout les Portugais, les Grecs, les Italiens notamment, qui étaient extrêmement pro-européens. Et qui finalement, par son organisation, est en train de se défaire. Mais c'est de l'intérieur qu'elle se détruit, par son manque de démocratie, par le fait qu'on est gouverné par des gens non élus, que le Parlement peut toujours causer, mais ça n'intéresse personne, qui a aucun espoir, par exemple, dans n'importe quelle démocratie, avec ses défauts et ses qualités. Si on a un mauvais gouvernement, on a l'espoir que le prochain sera mieux, qu'on pourra toujours voter pour quelqu'un d'autre. En Europe, ça n'existe pas. Monsieur de Lombaros est là, et on sait très bien qu'il restera là, indépendamment de notre volonté d'électeur. Et là, c'est là qu'on peut faire. Et est-ce qu'on ne va pas aboutir à une espèce de catastrophe genre Société des Nations avec l'Europe? C'est-à-dire que l'idée même de s'unir soit détruite, mais par l'institution elle-même.
On va enchaîner avec un grand Européen que vous savez que j'aime bien. Il y a un spectacle sur Victor Hugo, d'après un texte de Victor Hugo. Et vous savez que je suis hugolien et je vous vois sourire parce que je vous casse les pieds régulièrement avec Victor Hugo. Il y a une version de L'Homme qui rit, magnifique roman de Victor Hugo, qui sera donc... j'ai oublié les dates.
Au mois de novembre.
C'est au mois de novembre, du 26 au 28 novembre. Une adaptation de L'Homme qui rit, un roman énorme de Hugo, roman de plus de 800 pages et qui va être adapté. Vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Oui, je ris parce que souvent quand je viens, on parle de Victor Hugo. C'est vrai qu'au Printemps des Comédiens, nous avons programmé Les Misérables, mis en scène par Jean Bellorini, ouais. Mais également une très belle version de L'Homme qui rit qui était donnée par Gérard Guillaume, qui est un grand diseur. Là, il s'agit d'un projet d'actrice, Nathalie Guénoux, qui a souhaité, lorsqu'un directeur de théâtre lui a proposé de porter un texte qu'elle avait envie de défendre, qui a décidé de faire une adaptation donc, de L'Homme qui rit. Nous l'avons découvert à l'aquarium, à la cartoucherie de Vincennes. C'est un très très beau travail d'actrice. Elle incarne tour à tour tous les protagonistes, cette magnifique épopée. Et elle fait entendre à la fin du spectacle le très très beau discours de L'Homme qui rit devant, devant la Chambre des Lords, qui est un discours politique d'une force, d'une puissance inouïe. Et nous avons programmé ce spectacle cet été au Festival des Nuits de la Terrasse, et le public en est sorti bouleversé, à la fois par le texte, par l'épopée, et par l'incarnation, l'interprétation qu'en donne Nathalie Guénoux. C'est vraiment une très belle surprise, je crois, de cette saison à Sortie Ouest.
C'est vrai que moi, quand j'avais lu le discours, enfin, je l'ai lu plusieurs fois d'ailleurs, L'Homme qui rit, mais le discours de Gwynplaine à la Chambre des Lords, mais c'est beau à pleurer, ce discours politique qui est toujours d'actualité, qu'on peut lire, qu'il faut lire et relire et distribuer ce texte merveilleux. De toute façon, moi, dès qu'il y a du Victor Hugo, vous savez.
Il y a une autre figure qu'on interroge sur les guerres civiles européennes dans cette saison, c'est la figure d'Antigone d'Anouilh.
Oui, on va en parler tout à l'heure. D'accord. On va en parler tout à l'heure. Donc cet homme qui rit de Victor Hugo, ça sera donc du 26 au 28 novembre et c'est à Sortie Ouest.
À Sortie Ouest.
On va parler maintenant d'un autre spectacle qui aura lieu le 5 et 6 décembre, un texte qui s'appelle Borges vs Goya. De quoi s'agit-il ?
Ce sont deux pièces de Rodrigo Garcia qui sont mises en scène par Arnaud Lotroali, qui est un comédien lui aussi, qu'on a vu l'an dernier à Sortie Ouest dans Le Marivaux, mis en scène par Nadia van der Heijden, où il était très très beau dans cette mise en scène très forte de la fosse suivante de Marivaux. Et lorsqu'il est venu, il nous a reparlé d'un spectacle que nous avions vu il y a quelques années à Paris, qui fait entendre donc deux pièces de Rodrigo Garcia, non pas l'une après l'autre, mais il a décidé de les tuiler. Et une est donnée en français et l'autre en espagnol, dans les deux langues se répondent, évidemment elles sont surtitrées, et elles interrogent deux figures. Une figure d'un homme qui a été un grand admirateur de Borges, un Argentin, et qui, lorsqu'il devient adulte, se questionne sur l'attitude de Borges pendant la dictature.
Qui a été très ambigu.
Estimant que Borges n'a pas usé de sa position pour faire avancer les choses, faire bouger les choses. Donc c'est un désenchantement, finalement. Et l'autre figure, qui s'appelle Goya, qui n'est pas le peintre espagnol, mais qui est un insomniaque d'une cinquantaine d'années, qui rêve, et il y a un petit pécule, de rentrer dans le Prado la nuit et de montrer à ses enfants les œuvres de Goya. Et ces deux figures se retrouvent au plateau pour une œuvre à la fois décapante, à la fois inventive, et qui questionne sur l'aujourd'hui, sur notre rapport au monde d'aujourd'hui. C'est un texte de Rodrigo très poétique, comme souvent, et Carnot amène un point de théâtre très très délicat et très très fort. Ce sont des objets qu'on aime comme ça présenter au public à côté des grands textes comme Cyrano ou L'Homme qui rit.
C'est vrai que Borges, donc l'écrivain argentin, moi, c'est un écrivain que j'aime beaucoup. C'est l'écrivain qui a écrit L'Aleph, qui a écrit l'histoire de l'infamie, si je ne me trompe pas. Écrivain très, très, très important dans la littérature du XXe siècle et qu'on a un petit peu tendance à oublier maintenant. Je ne sais pas trop pourquoi.
Mais là, vous avez l'occasion de redécouvrir, en tout cas, un sentiment d'un Argentin sur son attitude pendant la dictature. Et c'est un spectacle qui interroge vraiment sur notre temps et sur notre époque.
Et je me souviens d'ailleurs que Borges, il avait été directeur de collection, d'une petite collection où il faisait découvrir ou redécouvrir des textes de la littérature fantastique. Ça, je vous parle, c'est une collection qui doit dater des années 60-70. Je dois en avoir quelques exemplaires à la maison. Et c'était un grand connaisseur de la littérature fantastique. Voilà. Une petite réflexion sur ces premiers plateaux ? Ben, on va faire une petite pause musicale. Et on parlait donc de Brecht tout à l'heure. Et il y a quelqu'un que j'aime bien, vous le savez, c'est Marianne Oswald. Et je vois déjà Christopher qui est en train de ricaner. Parce que régulièrement, je vous assène du Marianne Oswald. Avec donc un extrait de l'opéra de Katsu, Le chant des canons.
C'était John, leur sergent, c'était George E. Carson. Au régiment, peu importe d'où l'on vient, s'il en marche, tout va bien. Le canon tonne, nos paraisons.
Marianne Oswald, Le chant des canons, avec un texte de Bertolt Brecht et une musique, magnifique musique de Kurt Weill. Kurt Weill qui est vraiment un compositeur qu'il faut redécouvrir. Et j'ai peut-être l'idée de faire une émission spéciale sur Kurt Weill un de ces jours. J'y réfléchis. Et je vous rappelle que vous êtes sur Vendredi Théâtre, l'émission qui parle de l'actualité théâtrale sur Divergence FM. Nous sommes avec Jean Varela et c'est vrai qu'hors antenne, on a continué à parler de Victor Hugo. On a raconté l'histoire de cet homme qui rit. On parle donc de l'actualité de la saison de Sortie Ouest et on va continuer, on va parler de Shakespeare un tout petit peu puisqu'on va parler du spectacle The Knot qui est d'après Macbeth et c'est avec notre ami David Ayala dans une mise en scène de Dan Gemet.
Oui, c'est une création et on retrouve...
C'est une création, oui.
Oui, à Sortie Ouest, à une tournée nationale. On retrouve ce duo qui nous avait tant séduit dans la Comédie des Erreurs. Dan Gemet avait mis en scène cette comédie rarement jouée de Shakespeare avec David Ayala. Et là, ce qui nous a très intéressé, c'est que Dan Gemet, connaissant parfaitement Shakespeare, va le démonter, le désosser pour donner un spectacle qui mettra en scène David Ayala, metteur en scène de fiction, arrivant à la fin d'une représentation de Macbeth pour donner des notes aux acteurs. Il va indiquer ce qui allait, ce qui n'allait pas, et fur et à mesure de ces notes données aux acteurs invisibles qui ne sont pas là au plateau, il va lui-même jouer Macbeth. Et donc c'est une façon de montrer au public, d'amener le public vers la fabrication du théâtre. Et il y a d'ailleurs, tout au long de la saison, des rendez-vous qui permettront au public d'aller vers la fabrication. Je pense à Ce soir on improvise de Pirandello, qui fait partie de sa trilogie avec six personnages en quête d'auteur, et qui re-questionne la représentation. Je pense à Au bord de l'eau, que nous co-accueillons avec le théâtre de Béziers, d'Yvan Stade, qui eux aussi travaillent sur qu'est-ce que la représentation, qu'est-ce que le personnage, qu'est-ce que la relation au public. Et donc il y a ce corpus de textes qui permet aux spectateurs de rentrer dans la fabrication du théâtre et de nous amener, puisqu'on parlait de Shakespeare là, notamment au conte d'hiver que va mettre en scène Patrick Pinault.
On va en parler tout de suite. Moi, ce que je voulais dire, c'est quand j'ai lu le résumé, je me suis dit, oh, ça, c'est un rôle à la mesure de la démesure de David Ayala.
Oui, c'est un rôle
pour David. C'est quand même un sacré personnage, lui aussi. Hein.
David, c'est un acteur puissant, c'est un acteur à la fois portant une charge tragique et une charge burlesque. Donc,
Il est énorme.
Il est un clown fantastique. Et quand Dan Djemet le dirige bien, quand il le dirige de façon précise, on voit apparaître un très, très grand comédien qui emporte avec lui le public. Et il nous a semblé que cette proposition de Dan Djemet autour de Macbeth pouvait nous réserver de très beaux moments de théâtre. Dan Djemet qui est en train de mettre en scène d'ailleurs à la Comédie Française Hamlet avec Denis Podalydès qui prend le rôle. Donc il sortira tout chaud, si je puis dire, d'Hamlet pour venir travailler Macbeth à Sortie Ouest.
C'est vrai que David Ayala, on l'avait vu, je crois que c'était l'année dernière, dans Fil à la patte, il était énorme. Il était énorme.
Et dans la dramaturgie de Shakespeare, on ne peut pas être plus éloigné qu'entre Macbeth et Hamlet. Hein. C'est vraiment pas du tout le même truc.
Bah, on va continuer. Et dans la Comédie Française Sortie Ouest, on ne peut pas être plus éloigné à tous les niveaux.
Je le pensais, mais je ne l'avais pas osé.
Je ne dirais rien, ça serait, je passerais pour un flatteur, mais bon.
On va rappeler donc que le spectacle d'après Macbeth, The Note, c'est du 15 au 17 janvier. C'est donc à Sortie Ouest.
À Sortie Ouest.
On parle du conte d'hiver maintenant, hein, qui va avoir lieu du 20 et 21 mars, avec une mise en scène de Patrick Pinault.
Alors là,
Pinault, qu'on avait vu donc dans le Cyrano de Bergerac.
Ouais, qu'on retrouvera donc à Sortie Ouest. À la Cigalière plus exactement, le Cyrano de Bergerac. Et là, c'est une fidélité à Patrick, c'est un comédien que nous aimons beaucoup, c'est un homme de théâtre.
Encore un tempérament théâtral.
Un autre tempérament théâtral. C'est aussi un chef de troupe hein, qui aime rassembler autour de lui des grandes équipes de comédiens. On se souvient de sa création du Suicidé à Carrière Boulbon à Avignon. L'an dernier, il était à Sortie Ouest avec un Labiche, l'affaire de la rue de l'Oursine qui avait tourné dans le Grand Tour, qu'il avait mis en scène et qu'il, dans laquelle production il jouait. Et là, il a décidé de réunir encore une fois une grande équipe de comédiens et il viendra avec le conte d'hiver qui est actuellement en répétition à Paris, à Sénart. C'est une pièce tout à fait particulière de Shakespeare, qui commence comme une tragédie et qui finit comme une comédie, avec cette folie du roi Léonte qui est pris de jalousie soudaine. Et on va voir comment Patrick va répondre aux questions posé par cette pièce, notamment toute la question du temps qui passe, puisqu'il y a même un personnage qui arrive et qui dit « Je suis le temps qui passe » avec des ellipses que propose Shakespeare. C'est une pièce quasi cinématographique. Et ce sont toutes ces énigmes théâtrales que Patrick va devoir résoudre. Et je sais qu'actuellement, les répétitions se déroulent très bien. Il a une très très belle distribution avec Fabien Orsay, avec Hervé Brio c'est Christian Pinault qui est co-directeur in situ qui va signer la création de Lumière.
Mais c'est vrai que moi quand j'avais lu cette pièce il y a quelque temps, c'est classé comme parmi les comédies de Shakespeare, mais c'est vrai que ça commence un peu comme une tragédie. Et quand on le lit, on se dit, attends, c'est marqué comédie, et en fait on a l'impression au début que c'est une tragédie.
Ça commence comme une tragédie trois ou quatrième acte, ça va vers la comédie, mais véritablement la comédie très très burlesque avec des situations très drôles, très très curieuses quand on pense au début de la pièce.
C'est vrai que je connais pas d'autres pièces qui aient cet aspect comme ça, tragédie qui tourne à la comédie, je n'en vois pas d'autres, même dans l'œuvre de Shakespeare. C'est
une pièce qui a une place à part dans l'œuvre de Shakespeare et qu'il est toujours intéressant de voir monter par ces troupes d'acteurs rassemblés par un acteur. Et je sais que aujourd'hui, le travail des répétitions bute sur ce passage de la tragédie à la comédie. Comment les acteurs qui sont chargés de trois actes relativement tragiques arrivent à trouver la légèreté pour finir la pièce. Et c'est l'enjeu du travail actuel de répétition.
On va rappeler que c'est une création. J'aime bien souligner à chaque fois les créations.
Alors ça sera créé à Melun-Sénart, mais on s'est engagé avant que le spectacle ne soit visible.
On va reparler rapidement, avant de faire une pause musicale, de la reprise de Cyrano de Bergerac, qui aura lieu donc du 6 au 9 février. C'est une mise en scène de Georges Lavenant. C'est un spectacle qu'on avait vu donc, au Printemps des comédiens. Je pense que presque tout le monde l'a vu. Non, toi, tu l'as pas
non,
vu.
Non, moi, je ne l'ai pas vu.
Voilà.
Je voulais aussi signaler que c'est une série que nous essayons à Sortie Ouest de donner des séries. Il y a 4 représentations de Cyrano. Il y a 6 représentations de Tambour dans la nuit. Donc, on essaie d'inscrire dans la ville et sur le territoire les œuvres pour que le bouche à oreille ait le temps de fonctionner. Et il me semble que c'est la façon d'élargir le public, de ne pas simplement toucher le public qui est de prime abord concerné. Donc, nous avons décidé de reprogrammer... Quand je dis reprogrammer, c'est-à-dire après le Printemps des comédiens, Cyrano, parce qu'on ne voit pas tous les jours une grande production de Cyrano. Il se trouve qu'actuellement, il y en a plusieurs. Il y a celle de Pitoisé que vous pourrez voir à la scène nationale de Sète, avec Toreton dans le rôle.
Ah oui.
Et nous, il nous a semblé important de montrer au public, notamment au public jeune, des œuvres du répertoire qu'on ne voit pas tous les jours à l'affiche. Et comme c'est Georges Lavaudan et Patrick Pinault qui sont à l'ouvrage, on s'est embarqué pour une semaine de représentation en compagnie de toutes ces figures du théâtre français du 19e siècle.
C'est vrai qu'au Printemps des comédiens, ça avait été un gros, gros succès, ce Cyrano.
Oui, parce que c'est un texte qui fait partie de l'imaginaire collectif. Il y a très peu de pièces, de titres comme ça, qui rassemblent un public très large, un public familial, de gens qui ont déjà vu ou lu le texte et qui veulent le faire découvrir à leurs enfants, aux petits-enfants. Donc il y a un mouvement. C'est le cas pour Le Bourgeois Gentilhomme. Il y a très peu, me semble-t-il, d'œuvres qui sont connues de tous. Vous pouvez interroger dans la rue Cyrano de Bergerac. À peu près tout le monde sera en mesure de vous dire oui, la tirade du nez.
Oui,
ce qui est assez rare pour une œuvre de théâtre.
Oui, c'est même...
Internationalement aussi. Hein,
internationalement aussi.
C'est et une puis, des premières œuvres que j'ai lues de ma vie en français.
Oui, parce qu'elle peut représenter l'esprit, ce qu'on appelle l'esprit français.
Moi, je me rappelle au fin fond de la Bosnie, dans un petit village, un bosniaque me sortir la tirade du nez en français, alors qu'il ne parlait très mal français. Donc c'est vraiment international. Oui.
Mais c'est vrai, Tito, quand tu étais sorti du spectacle au Printemps des comédiens, je t'ai vu sortir du spectacle, on ne l'a pas vu le même jour, mais toi, tu étais pratiquement en larmes.
Ah, moi, j'étais en larmes, parce que la beauté de la langue française, dite comme ça, et que, surtout quand on sait le sort malheureux de la langue française en ce moment, moi, ça me chagrine, c'est horrible. Ça.
Il y a des moments dans le Cyrano extraordinaire, et c'est ce qui est beau dans cette pièce, c'est une alternance de vers de Mirliton et de vers sublime.
Oui.
et ce qui est aussi très fort, c'est que même si on n'a pas relu la pièce, même si on ne l'a pas vue depuis quelque temps, les vers et les moments de bravoure du rôle nous reviennent, sont en nous. La tirade des noms merci, la tirade du nez, la scène du balcon, la mort de Cyrano qui est là et magnifique, je trouve, dans la mise en scène et l'interprétation de Patrick Pinault, nous reviennent. C'est vraiment un substrat commun qui font qu'il y a une communauté d'individus qui pensent. Et réfléchissent un peu de la même façon. La langue structure notre pensée. Et Cyrano est un exemple.
Ben ça, alors là, ça c'est clair. Les sociétés, une langue c'est le miroir de la société, mais la société, on retrouve la structure de la société dans la structure de la langue. Et on comprend une langue, on comprend une société.
On va faire une petite pause musicale. Je vous rappelle que le fil rouge des pauses musicales aujourd'hui, c'est la guerre 14. Et j'ai choisi Bernard Dimet, qui est un poète que j'adore, qu'on ne cite jamais assez. C'est celui qui avait écrit, entre autres, Syracuse. J'aimerais tant voir Syracuse, l'île de Pâques et Kérouan. Les gros oiseaux. Bon, je ne vais pas vous la réciter. Et là, c'est Bernard Dimet lui-même qui récite un de ses textes. Et ça s'appelle « La musique militaire ».
Je ne connais rien de plus beau que la musique militaire. Au moins ça, c'est viril. C'est bon pour nos petits gras. Quand sonnent les tambours, tout le monde est solidaire. Le rythme vous entraîne. On y va d'un seul pas. Le regard fier et droit vers l'ennemi qui recule, ayant déjà compris qu'il n'avait plus d'espoir. Vaincre s'écrit pour nous en lettres majuscules. C'est avec des clairons que l'on apprend l'histoire. La musique militaire, c'est comme un bas de jouvence. Ça nous rappelle à tous quels gaillards nous étions. On leur en a fait voir. Tous les ennemis de la France devant nous dans mon temps, s'abaissaient pavillon. Fallait nous voir, nous autres, au 93e. On en voulait, je vous jure. Oh, sacré nom de nom. On avait beau suer de peur, on avançait quand même, musique en tête, hardi. Baïonnette au canon. Mais les jeunes d'aujourd'hui, ça joue les anarchistes. Ça prétend réfléchir. La guerre ne leur dit rien, malheureux galopins. C'est tout de même un peu triste. Vous irez comme les autres au barreau, j'espère bien. Il n'y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes qui payent pour sauver la patrie et l'honneur du drapeau. On s'est battu pour eux. Ils nous doivent l'appareil. C'est le devoir du soldat d'aller risquer sa peau. La musique militaire, il n'y a que ça qui fait des hommes et pas des petits voyous du gibier de boîte de nuit. S'ils avaient fait comme moi la bataille de la Somme, ils auraient sûrement le droit d'en être fiers aujourd'hui. Si on écoutait les conseils des vieilles classes, on leur battrait le rappel. On les ferait foutre en rang. Et voir en première ligne un peu comment ça se passe. Et devenir, s'il le faut, l'orgueil de leurs parents.
Et oui, de la musique militaire sur Divergence FM, c'est pas tous les jours, hein, faut en profiter quand ça arrive. C'était donc Bernard Dimet, le grand Bernard Dimet, la musique militaire. Je vous rappelle que vous êtes sur l'émission Vendredi Théâtre, l'émission qui explore l'actualité théâtrale, que nous sommes avec Jean Varela et qui nous parle du programme de Sortie Ouest à Béziers. On parle de la guerre 14, et bien maintenant on va aller dans le vif du sujet, puisqu'il y a plusieurs spectacles en rapport avec la guerre 14, dont on va commémorer le centenaire donc l'année prochaine, avec un spectacle que j'ai déjà noté, c'est 15 chansons sur la guerre de 14.
Oui, c'est le chanteur Coco,
oui.
Qui est de la région.
Qu'on a déjà reçu de nombreuses fois à Divergence.
Qui a décidé d'aller fouiller dans ce répertoire qui est très riche. Hein, il y a de très grands compositeurs d'ailleurs qui a écrit. J'ai vu que Camille Saint-Saëns avait composé des chansons. Et il a décidé d'en chanter une quinzaine. Et ce spectacle tournera dans les médiathèques du département de l'Hérault pendant un petit mois.
Oui,
avec son accordéon, ce sera une forme très simple, en acoustique, qui fera vraiment entendre un peu comme elles ont été créées, au coin des rues. Elles étaient un vecteur d'information, un vecteur de réflexion, un vecteur important. Il faut imaginer évidemment qu'il n'y avait ni la télé, ni la radio, et les chansons n'étaient pas simplement des outils de divertissement, elles étaient des outils pour informer, pour réfléchir, pour discuter.
Pour convaincre au niveau politique.
Et
on achetait le fascicule.
Déjà la Révolution, les chansons imprimées ont beaucoup servi. Et il y a un répertoire très, 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 très beau, soit très simple, d'écriture très simple, soit d'écriture littéraire. Et il en va de même de la musique. Il y a des compositions très simples. Et puis, comme je le disais, de grands compositeurs qui ont écrit pour ces.
J'ai noté quand même des gens que je connais qu'il va chanter. Il y a Monteus.
Qu'on connaît ici en plus, puisqu'il a écrit cette fameuse chanson sur la révolte de 1907, la révolte des vignerons. qui est un chanteur, interprète et auteur extraordinaire.
Qu'on oui, qui avait écrit les Braves Piou Piou du 17e,
c'est ça, sur 1907.
Et qui a mal fini d'ailleurs, parce que Monteus, il a commencé révolutionnaire et après, il était plutôt du côté des ultranationalistes. Hein, comme quoi...
C'est le cas, c'est, ça arrive.
Ça arrive. J'ai noté aussi qu'il y avait du Charles Davray, Charles Davray qui était un chansonnier anarchiste un peu oublié aujourd'hui, qui avait écrit Le Triomphe de l'anarchie, si je ne me trompe pas. Il y a du Gaston Couté, dont on va reparler tout à l'heure. Oui, vas-y.
Oui, je vois sur le programme que le spectacle est fait avec Coco au chant et à l'accordéon, et aussi Danito au chant et à la guitare. Danito, je crois que c'était un des membres du groupe Les Croquants.
Exactement.
Et c'est avec talent qu'il a repris beaucoup de chansons françaises. J'imagine que ça sera avec le même talent qu'il interprétera les chansons dans ce spectacle.
Mais c'est très intéressant de redécouvrir aussi des chansonniers comme ça qui ont eu une importance énorme à une époque et qui sont un peu oubliés. Parce que c'est vrai que Monteus, tout le monde le connaissait. Hein. Tout le monde
Monteus, connaissait. Oui,
c'est un peu comme Aristide Bruand.
Bien sûr.
C'était vraiment quelqu'un de très important. Donc ce spectacle, il va être en tournée donc dans plusieurs lieux, dans plusieurs moments.
En avril et mai.
En avril et mai, voilà. C'est les dates qui me manquaient. Bon, on va continuer avec la guerre 14, la commémoration, avec de Thèbes à Verdun. De quoi s'agit-il ?
Il s'agit de, dans un même week-end, de la venue en co-accueil avec l'État de Béziers de l'Antigone de Hanouille, mis en scène par Marc Paquin. C'est une production de la Comédie Française, plus exactement du Vieux Colombier, mais production Comédie Française. Et en pendant, nous avons programmé ce spectacle que j'avais vu il y a une dizaine d'années, qui avait marqué les esprits, de la compagnie Hôtel Moderne, sur Verdun. Mmh. Et donc nous avons imaginé avec Bruno Deschamps un week-end autour de... que nous avons baptisé de Thèbes à Verdun, parce que l'Antigone d'Hanouille a eu une place très importante en 1944. La figure d'Antigone n'étant chez lui ni une figure religieuse, ni une figure comme on la voit chez Sophocle, mais une figure qui peut représenter la liberté. Et c'est ce que les jeunes gens à Paris, en découvrant le texte d'Hanouille, ont senti. Ils ont senti qu'il y avait là une figure de la résistance possible. Même si après, Hanouille a pris des positions, lui aussi...
À peu près plus ou moins.
À peu près plus ou moins à la libération. Et donc, c'est la venue de la Comédie Française au Théâtre Municipal. Très belle production d'une Antigone qu'on voit peu, finalement.
C'est au Théâtre Municipal.
C'est au Théâtre Municipal, voilà, théâtre à l'italienne, très beau théâtre de l'architecte Isabelle. Et La Grande Guerre, qui donne à voir Verdun grâce à de petites marionnettes qui travaillent dans un décor miniature. Le sable est fait, le sable représente les tranchées, le gaz moutarde est fait avec un brûleur, et tout ça est filmé en direct et projeté sur un écran. Il faut dire que lorsque nous avons découvert ça il y a 10 ans, c'était une révolution théâtrale. Maintenant, on s'est habitué, j'ai en tête encore le Kiss and Cry au Printemps des Comédiens, mais ça, ils n'ont pas, eux, la volonté, comme le fait Jaco van Dormael dans Kiss and Cry, de réaliser un film en direct. Simplement, ils agrandissent leur travail miniature pour qu'on puisse le voir. Et il y a des moments de la représentation qui ne sont pas filmés. On ne voit simplement que ce qui se passe au plateau. Et l'ensemble est porté par des textes de Poilu, lettres de Poilu, qui sont maintenant dites et redites. Mais là aussi, il y a 10-15 ans, on redécouvrait toute cette littérature de la Grande Guerre. Et c'est un spectacle qui fait pendant, d'ailleurs, je crois en avoir parlé en début d'émission, à ce spectacle de la même compagnie qui est joué au 104 à Paris, qui va un peu tourner, qui s'appelle Camp sur Auschwitz. Et si je parle de ça, c'est que cette forme dramaturgique montre l'immontrable. La présence de ces petites marionnettes permet de montrer soit les massacres de Verdun, la boucherie de Verdun, soit l'horreur des camps de la mort dans le camp. Donc il y a une forme qui interroge sur ce qu'on peut montrer, ce qu'on ne peut pas montrer, et comment peut-on le montrer.
Quand on parle de la guerre 14, je me souviens, Tito et moi, il y a quelques années, on avait été visiter des tranchées dans le nord de la France, et je ne sais plus où c'était exactement.
C'était les tranchées canadiennes.
Voilà, et c'était tout à fait impressionnant, parce que les tranchées autour, il y avait une immense forêt, et en fait, la forêt, c'était que pour chaque soldat tué, il y avait eu un arbre de planté. Et je me souviendrai toujours, et puis on voit la condition des tranchées, cette immense forêt qui symbolise à chaque fois, à chaque arbre, un mort.
Puisque vous parlez de visites possibles, il y a dans l'Hérault la forêt des écrivains combattants, au-dessus de la Malou-les-Bains, qui est une forêt avec de très très beaux paysages, de très belles allées, et chaque allée porte le nom de poètes disparus lors de la Grande Guerre. Et je vous recommande d'aller visiter cette forêt qui est une promenade extraordinaire.
Et puis il y a des grandes injustices. Je pense aux Canadiens, tout à l'heure on parlait aux antennes des Portugais qui sont complètement dans les oubliettes. Mais les Canadiens qui sont venus en Première Guerre mondiale, qui ont été volontaires pour débarquer à Dieppe pour tester les défenses allemandes, sachant qu'ils allaient mourir. Et ça c'était en 1944. Voilà, c'était juste... Moi, je ne suis pas pour la guerre, mais quand les gens ont fait quelque chose de bien, il faut quand même le signaler.
On va finir cette... On ne pourra pas parler de tout, hein, parce qu'il y a énormément de choses dans la saison, mais je veux finir absolument avec quelque chose qui m'interpelle très volontiers. C'est le spectacle Saad Pasolini, avec une mise en scène. On retrouve David Ayala. Saad, moi, c'est une histoire. C'est un peu comme Hugo, hein, donc si on commence à me brancher sur Saad, on n'a pas fini. Saad, c'est l'esprit le plus libre qui ait jamais existé, comme le disait Guillaume Apollinaire. Donc voilà, mais je vais m'arrêter sur Saad.
Ça me permet d'abord de dire que David Ayala sera en résidence 3 ans à...
Ah oui, c'est la question que je voulais vous poser.
À Sortie Ouest, et on le retrouvera tout au long de la saison, d'abord par un travail autour d'une des figures emblématiques du théâtre français des années 40-50, qui est Roger Blin, qui est une des personnalités qui porte très haut le sens du théâtre public, le sens de l'exigence au plateau.
Qui a mis en scène Jean Genet,
qui a découvert en France Beckett, qui a mis en scène Jean Genet. Et David a souhaité lui rendre hommage. Et il va mettre en scène un chantier de création autour de la figure de Roger Blin.
Très grand monsieur de théâtre.
Très, très grand monsieur de théâtre et de cinéma. On
oui,
le retrouve
aussi
dans de nombreux films des années 40-50. Et le second travail de David cette saison réunit donc Saad et Pasolini, ces deux figures emblématiques, cet aristocrate du XVIIIe siècle et Pasolini. Et il va interroger notre rapport à Dieu, à la société. Quel est le rapport de la société à Dieu, un monde avec Dieu, un monde sans Dieu. Et il va réunir pour ça toute la troupe qui travaille depuis Armatimon avec lui, Roger Cornillac notamment, pour tester cette parole et de Saad et de Pasolini. Et je pense que ça donnera lieu après à une création dans les saisons.
Alors là, ça c'est intéressant, parce que moi j'ai vu un travail pour... Bon, je vais ramener mon petit portugais. J'ai vu un travail de Luis Miguel Cinta que j'ai absolument détesté. C'est où il mélangeait Diderot, Saad et Voltaire. Et il constituait un personnage avec ça. C'est ça l'erreur. C'est complètement contradictoire. Comment est-ce que... en libertin, certes, on a là un agnostique, un athée... probablement 2 athées déjà, avec des visions sur la religion complètement opposées, sur absolument tout, puisqu'il y a un côté spirituel quand même chez Diderot, même si je le crois athée, personnellement.
Diderot, on le sent athée.
Saad, c'est parfaitement athée, et alors aucune spiritualité, il s'en tape. Et Voltaire, qui est spiritualité, il passait par-dessus la tête, mais qui était agnostique. Là, c'était un ratage total. Là, je trouve que la démarche, là, c'est intéressant. Parce que là, Pasolini, c'est quelqu'un, c'est un catholique. Un catholique, et c'était lui qui faisait les chroniques du Corriere della Sera, le journal du Vatican, tout en étant communiste. Bon, alors, bonjour.
C'est vrai que Pasolini, il a adapté au cinéma les 120 journées de Sodome, voilà. Ce qui n'était pas facile à faire.
Et un athée parfait, aristocrate, mais révolutionnaire et républicain. Moi, je trouve que là, il y a un tissu de contradiction tout à fait intéressant à mettre en parallèle et à faire quelque chose. Là, ça risque de faire quelque chose.
C'est vrai que Saad, c'était l'un des rares à s'annoncer et à revendiquer son athéisme. Et je pense, entre autres, à un texte qu'il faut lire, qui est très peu connu de Saad, qui s'appelle La Vérité, où c'est un manifeste, mais vraiment où il nie l'existence de Dieu et il affirme son athéisme, ce qui est absolument incroyable pour l'époque.
La très belle étude de Annie Lebrun.
Annie Lebrun, que j'ai interviewé il y a quelques années pour Divergence. J'ai eu la chance de l'interviewer. On avait parlé de ça, justement.
Et il va aussi placer son propos, David, sur l'engagement politique de ces deux figures. Et je trouve que dans la démarche de David Ayala, comédien, metteur en scène engagé, on se souvient de son travail sur Guy Debord, Scanner, qui questionne le monde aujourd'hui. C'est une étape qui me semble intéressante. En tout cas, on en attend beaucoup.
Moi, je pourrais parler des heures du Marquis de Sade. Un jour, je ferai une émission consacrée au Marquis de Sade.
Pasolini qui écrivait un vers.
Très vite. Moi, j'ai joué un spectacle sur le Marquis de Sade, qui avait mis en scène un metteur en scène qui a beaucoup fait pour le théâtre à Montpellier, qui s'appelait Michel Touraille, qui s'appelle toujours. Et nous avions créé un spectacle qui s'appelait Sade Marquis sans culotte, écrit par un dominicain, et que nous avions d'ailleurs joué pendant le Festival d'Avignon au Château de la Coste, dans les caves du château du Marquis de Sade. C'est un très beau souvenir de théâtre.
Jean, merci de nous avoir accompagnés pour ce Vendredi Théâtre. Vous savez, vous venez quand vous voulez.
Merci, et vous aussi à Sortie Ouest.
Et la vôtre. Vendredi Théâtre, c'est terminé. On va se quitter avec Gaston Couté. On parlait de Gaston Couté, le grand Gaston Couté. Les conscrits qui nous parlent de la guerre 14 indirectement. Merci. Bonne semaine théâtrale à tous.
Là, les conscrits de chez nous qui passent en plan le temps qu'on marche devant. On mit tant le drapeau fouette au vent. Les voilà ceux qui reprendront l'Alsace. Les voilà ceux qui reprendront l'Alsace. Ils viennent d'amener leur numéro, ce sont des péchés de le maître. Les gars de charrues sur leur casquette. Les gars de patrons sur leur chapeau. Les gars de patrons sur leur chapeau. Terre tous sont fiers de leur matricule comme une jeune mariée de son voile. Et c'est pour ça qu'ils vont gueulant, et qu'on les trouve pas ridicules, et qu'on les trouve pas ridicules. Ils ont raison de prendre du bon temps, leur gaieté touche le cœur des filles, et de voir leur livret qui pendille, les pieux voudraient avoir 20 ans. Les vieux voudraient être à leur place et devant leurs blagues de saligots. Des bons hommes tout blancs disent il faut. Bien bon Dieu que la jeunesse passe. Bien bon Dieu que la jeunesse passe. Et donc comme ça, bras dessus, bras dessous, ils vont gueulant des cochonneries. Plus c'est cochon et plus qui rit. Et plus qui vont et plus qui sont sous. Et plus qui vont, et plus qui sont sous. Y en a même d'aucuns qui dégueulent, mais ceux qui marchent encore au port. Pour s'apprendre à faire les soldats, s'amusent à se foutre sur la gueule. S'amusent à se foutre sur la gueule. Ils ont raison de prendre du bon temps. Leur gaieté touche le cœur des filles. Et de voir leur livret qui pendille. Les pieux voudraient avoir 20 ans. Pourquoi soldats, ils en savent rien. Ils seront soldats pour la défense. La patrie c'est quoi? C'est la France. La patrie c'est tuer les Prussiens. La patrie c'est tuer les Prussiens. La patrie quoi? C'est la patrie, c'est une chose qui ne se discute pas.